Chapitre 10. Le célibat. Il me faudrait écrire un gros volume au lieu d'un court chapitre si je voulais raconter toutes les ruses, les pieux mensonges, les sacrilèges et les monstrueuses profanations de l'Écriture sainte auxquelles les supérieurs des collèges et des couvents ont recours afin de persuader au jeune homme ou à la jeune fille que Dieu exige d'eux les vœux du célibat. Les misères, les épreuves, les désappointements, les obligations de l'état du mariage leur sont présentées sous les couleurs les plus sombres et les plus propres à dégoûter, à épouvanter même la volonté la plus robuste. Tandis que les délices et la paix promises aux célibataires sont exagérées au point de tenter l'esprit et le cœur les plus froids. Tous les honneurs de la terre, toutes les joies du ciel sont promis à ceux que l'on veut attacher par ce vœu irrévocable au service de l'Église. Les applaudissements du monde se mêlent au sourire des anges, dans l'imagination de la jeune victime pour l'exalter, la séduire et l'enivrer. Le pape l'a fait, pour ainsi dire, gravir le sommet de la plus haute montagne et de là lui montre toutes les gloires de la terre et tous les plus beaux trônes du ciel en lui répétant les paroles mêmes de Satan à Jésus-Christ. « Je te donnerai toutes ces choses si, prosterné à mes pieds, tu me promets de m'obéir parfaitement et de t'enchaîner à ma volonté par le vœu du célibat. » Mais, avant de fermer complètement les yeux pour se précipiter dans cet abîme doré et fleuri qu'on a creusé sous ses pieds, la malheureuse victime éprouve quelquefois comme un sinistre pressentiment des terribles misères qu'on lui prépare. Car la voix de l'intelligence et du sens commun, les cris de la conscience et du cœur, n'ont pas toujours été étouffés aussi complètement que les supérieurs l'auraient désiré. Pendant que Satan redit à l'oreille de l'âme ses paroles séduisantes et mensongères, qu'il ne parle que de joie céleste, de couronne d'anges, de trône au ciel, la voix de la raison et la voix de Dieu se font entendre aussi pour parler des combats, des chutes, des hontes, des désastres, qui ne sont que trop souvent la conséquence de la témérité, de l'ignorance, de la faiblesse de notre pauvre nature déchue. Comme autrefois, les victimes humaines, à l'approche du terrible sacrifice, faisaient entendre des cris plaintifs et se débattaient pour éviter le couteau sanglant du prêtre des idoles, ainsi la victime du célibat romain sent, à mesure que s'avance l'heure de l'immolation, son cœur frémir de terreur. Avec un visage pâle comme la mort, des lèvres tremblantes, des sueurs froides sur son front, elle dit à ses supérieurs « Est-il bien vrai que Jésus-Christ me demande un tel sacrifice ?» Oh ! Que l'impitoyable supérieur ecclésiastique se fait alors éloquent pour dépeindre le célibat comme la seule route du bonheur, la porte du ciel, ou pour décrire les horreurs d'un enfer éternel sûrement réservé aux lâches qui, après avoir mis la main à la charrue du célibat, regardent en arrière. Mais il ne s'arrête pas là. Afin de mieux convaincre sa victime, il lui montre le désappointement des parents et des amis et sa propre honte si elle retourne dans ce monde dont elle sera l'éternelle risée. Puis, il l'éblouit par les plus séduisants sophismes, par les plus pieux mensonges, en lui faisant le récit des miracles opérés par Jésus-Christ en faveur des vierges. Enfin, il l'écrase sous une véritable avalanche de textes qui n'ont pas le moindre rapport avec les vœux du célibat, mais que l'Église romaine, par un abus sacrilège de la parole de Dieu, détourne de leur vrai sens afin de persuader que rien n'est plus difficile que de se sauver en dehors des vœux du célibat. Un des textes dont les théologiens romains font l'usage le plus étrange est celui de Matthieu 19. « Il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. » Un jour, notre supérieur, appuyé sur ces paroles, nous fit un chaleureux discours pour nous prouver que si nous voulions obtenir l'honneur d'être prêtre de Jésus-Christ, il nous fallait faire serment de ne jamais avoir d'épouse. Le discours, quoique plein de feu, nous parut cependant excessivement faible de logique. Le lendemain, étant un jour de congé, les étudiants en théologie qui se préparaient comme moi à la prêtrise causèrent longuement sur les arguments du discours de la veille. Les conclusions ne nous paraissaient nullement en rapport avec les textes de l'Écriture dont on s'était servi. Nous résolûmes donc de présenter respectueusement à la première conférence nos vues à ce sujet. Et je fus choisi pour parler au nom des autres. J'ai heureusement conservé les notes de ce discours, les voici. Bien cher et vénérable directeur, vous nous avez assuré que les paroles de Jésus-Christ, « Il y a des hommes qui se sont faits eunuques par le royaume des cieux », doivent nous prouver jusqu'à l'évidence que, si nous voulons être prêtres, il nous faut absolument nous faire eunuques par les vœux du célibat. Mais notre Seigneur nous fait bien connaître qu'il n'attache aucun privilège sanctifiant au célibat. Puisque, dans le même chapitre, répondant à la question du jeune homme, « Bon maître, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il lui répondit tout simplement, « Si tu veux avoir la vie éternelle, garde les commandements, et non, fais serment de ne jamais te marier. » N'est-ce pas encore là la réponse que le Sauveur ferait en ce moment, s'il était à votre place et si je lui demandais ce qu'il me faut faire pour avoir la vie éternelle et en montrer la voie à mes frères? Ne me dirait-il pas « Garde les commandements, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain, honore ton père et ta mère ?» Comme vous le voyez, en énonçant les conditions qui assurent la possession du ciel, Jésus-Christ ne pense pas au vœu du célibat. Il n'en dit pas un seul mot. Permettez-nous donc de vous demander avec tout le respect possible, si le célibat avait occupé dans la pensée du Seigneur la place que vous lui donniez dans votre discours, aurait-il oublié d'en parler à ce jeune homme qui lui demandait d'une manière si sérieuse « Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Il nous semble étrange que l'on mette tant d'importance à nous faire faire des vœux sur lesquels l'Ancien comme le Nouveau Testament sont absolument muets et dont notre Seigneur lui-même n'a jamais parlé, même au moment les plus solennels de sa prédication. Nous ne pouvons comprendre pourquoi on exige de nous des sacrifices qu'on n'a pas même demandé aux plus grands et aux plus saints apôtres de Jésus-Christ. Il me parut évident que mon discours avait autant embarrassé notre vénéré supérieur qu'il avait fait plaisir aux jeunes gens qui se préparaient avec moi à la prêtrise. Il me demanda vivement « As-tu fini tes objections ?»« Non, pas entièrement, lui répondis-je. Mais je vous prie d'éclaircir nos doutes et de nous donner plus de lumière sur les questions que j'ai touchées. Je vous proposerai ensuite quelques autres difficultés touchant les vœux du célibat, si vous avez la bonté de me le permettre. « Tu parles comme un véritable hérétique, me répliqua M. Lepron. Et si je n'avais pas l'espoir que tu cherches à dissiper tes doutes plutôt qu'à les soutenir, sur une question aussi grave, j'avertirais mon Seigneur de te mettre de côté et de ne pas t'élever à la prêtrise. Tu parles de l'Écriture sainte comme un vrai protestant. On dirait que tu as oublié qu'outre la parole de Dieu écrite, il y a la tradition dont l'autorité est la même que celle de l'Écriture. Tu as raison lorsque tu donnes à entendre que les vœux du célibat ne se trouvent pas dans la Bible d'une manière positive et directe. Mais si le commandement du célibat n'est pas dans la Bible, il est dans la tradition. C'est un article de foi que le célibat est imposé par Jésus-Christ, puisque les saintes traditions de l'Église nous l'assurent. Les paroles de l'Église, c'est la parole de Jésus-Christ même, puisque notre Seigneur a dit « Celui qui n'écoute pas l'Église doit être regardé comme un païen et un publicain. » Il n'y a donc pas de salut possible pour quiconque ne soumet pas sa raison à ce dogme de l'Église. On ne vous demande pas de comprendre pourquoi le vœu du célibat est commandé à ceux qui veulent être prêtres, on vous demande seulement de le croire. Votre devoir n'est donc pas de raisonner sur ces matières, mais d'obéir à l'Église, comme des enfants dociles obéissent à leur mère. D'ailleurs, le vœu du célibat exigé par l'Église de tous ceux qui aspirent à l'honneur d'être prêtres se comprend lorsqu'on se rappelle que les apôtres furent obligés eux-mêmes de quitter leur femme, comme on le voit par les paroles de saint Pierre à Jésus-Christ. « Maître, nous avons tout quitté pour vous suivre. Que nous donnerez-vous » Matthieu 19, 27. Le prêtre n'est-il pas le représentant de Jésus-Christ? Par la prêtrise, n'est-il pas l'égal, j'oserais dire le supérieur de Jésus-Christ sous certains rapports, puisque, quand il dit la messe, il commande à Jésus-Christ et le Fils de Dieu est obligé d'obéir. Il n'est pas même au pouvoir de Jésus-Christ de résister à l'ordre du prêtre. Il descend du ciel chaque fois que le prêtre le lui commande. Le prêtre le porte où il veut, le fait rentrer dans le Saint Tabernacle ou l'en fait sortir à son gré. Et Jésus-Christ ne peut résister. Par là même, le prêtre est au-dessus des anges. Et puisqu'il est au-dessus des anges, qu'il jouit de privilèges refusés aux anges même, ne doit-il pas en avoir la sainteté et les vertus? Or, Jésus-Christ ne dit-il pas positivement, en parlant des anges, qu'ils ne se marieront pas ?« Neque nubent, neque nubentur » Et n'est-ce pas des prêtres que le Sauveur voulait parler quand il disait « Ils seront comme les anges de Dieu » Matthieu 22, 30. Saint Paul ne dit-il pas que l'état de virginité est plus saint que celui du mariage? N'est-ce pas nous dire clairement que le prêtre, dont les mains après la consécration touchent et portent tous les jours le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ, doit se tenir au plus haut degré de la vertu par les saints vœux du célibat. car ce vœu est comme le lien sacré qui attache l'âme au ciel et l'élève au-dessus de la terre. Jésus-Christ, par la bouche de son Église, impose ce vœu à ses prêtres comme un des remèdes les plus efficaces contre les inclinations naturelles de notre nature déchue. D'après les saints-pères, le vœu du célibat est comme une haute et puissante tour qui, tout en nous mettant à l'abri des traits de l'ennemi, nous permet de le combattre et de le vaincre plus sûrement. Si vous avez encore quelques doutes sur cette grave question, soumettez-les-moi, je me ferai un plaisir de les résoudre. « Nous vous sommes reconnaissants de votre bonté, lui répondis-je. D'abord, nous vous remercions de nous avoir avoué que le célibat ne se trouve commandé à personne dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et que ce n'est que par la tradition de l'Église que nous connaissons la volonté de Dieu à ce sujet. Il nous avait semblé que votre intention était d'appuyer la nécessité de ce vœu sur l'Écriture sainte. Si vous nous le permettez, nous traiterons la question de la tradition à ce sujet une autre fois. Aujourd'hui, nous prendrons encore la liberté de discuter sur le sens que vous donnez à certains textes de l'Évangile en faveur du célibat. D'abord, lorsque saint Pierre dit « Nous avons tout quitté », il n'entendait assurément pas avoir quitté sa femme, comme vous l'avez assuré, par un vœu perpétuel. Car saint Paul nous dit positivement, longtemps après, que saint Pierre non seulement vivait avec sa propre femme dans sa maison, mais qu'il voyageait avec elle quand il allait prêcher l'Évangile. Les paroles du Nouveau Testament à ce sujet sont d'une telle clarté qu'il n'est possible de les obscurcir ni par les interprétations les plus ingénieuses, ni par les traditions les plus respectables. Vous connaissez ces paroles, permettez-nous de les citer. N'avons-nous pas le droit d'être nourris à vos dépens? N'avons-nous pas le pouvoir de mener partout avec nous une femme, notre sœur en Jésus-Christ, comme le font les autres apôtres et les frères de notre Seigneur, et Céphas? Serions-nous les seuls, Barnabas et moi, qui n'aurions pas le pouvoir d'en user de la sorte? Saint Pierre, disant à Jésus-Christ, « N'avons-nous pas tout quitté pour vous suivre ?» ne veut pas donner à entendre, comme vous semblez nous l'assurer, qu'il avait fait vœu de ne plus vivre avec sa femme, mais seulement que son cœur était tellement détaché de toute chose que notre Seigneur y tenait la première place, que tout le reste, même ce qu'il avait de plus cher au monde, comme son père, sa mère, son épouse, n'était que secondaire. Votre second texte, que les anges de Dieu ne se marient pas et que les prêtres étant les vrais anges de la terre ne doivent pas se marier, ne nous semble pas avoir plus de force que le premier en faveur des vœux du célibat. Car si vous avez la bonté de relire ce texte, vous verrez que Jésus-Christ dit « Vous êtes dans l'erreur, ne comprenant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Car après la résurrection, les hommes n'auront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Matthieu 22, 29 et 30. Vous voyez que lorsque notre Seigneur parle d'hommes semblables aux anges, qui ne se marieront pas, il a bien soin d'avertir que ce ne sera qu'après la résurrection qu'aura lieu cet état de choses. Si l'Église avait pour nous la même compassion que Jésus-Christ avait pour les hommes anges dont il parle, si l'Église ou notre Saint-Père le Pape avait la bonté d'attendre avec la résurrection pour faire de nous des anges, par le vœu du célibat, je crois être le fidèle interprète et le fidèle écho des pensées de tous mes amis, en vous disant que nous aurions à l'égard de ces vœux bien moins d'objections que nous n'en avons. Que l'Église nous fasse faire des vœux solennels de ne pas nous marier après la résurrection, voilà ce qui nous paraît raisonnable et parfaitement conforme à la parole de Jésus-Christ. Mais qu'elle veuille absolument nous élever à l'état de sainteté des anges pendant que nous ne sommes que de pauvres pécheurs dans les vases d'argile, c'est absolument contraire aux pensées et aux paroles de notre Seigneur, au moins dans le texte dont vous vous êtes servi. Vous nous affirmez que le vœu de célibat est la meilleure garantie possible contre les penchants de notre faible nature. Mais ne craignez-vous pas que ce remède ne soit absolument et directement contraire au remède que l'Esprit-Saint lui-même nous offre à ce sujet? Ne lisons-nous pas dans l'Évangile « Propter fornicationem autem quisquem suam uxorem habeat et una coque virum suum habeas » pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son époux. 1 Corinthiens 7, 2. N'est-ce pas vraiment étrange? Dieu nous assure que le meilleur, sinon le seul remède qu'il ait jamais trouvé contre notre concupiscence, est le mariage. Et voilà que l'Église nous affirme au contraire qu'elle a découvert un remède bien plus simple et plus efficace, bien plus digne de l'homme et de Dieu. Un remède que Dieu, lui-même, ignorait quand il parlait à Adam dans le paradis terrestre, et que le Saint-Esprit ne connaissait pas encore lorsqu'il dictait à saint Paul sa première épître aux Corinthiens. Et ce remède nouveau, dont notre Saint-Père le Pape a seul trouvé le secret, c'est le vœu du célibat. Mon dernier mot était à peine échappé de mes lèvres que notre directeur, oubliant sa modération ordinaire, m'interrompit brusquement et me parla avec une véhémence que je ne lui connaissais pas. « Je regrette infiniment, dit-il, de t'avoir permis ces misérables objections. Mais ce ne sont pas des objections que tu fais, ce sont des blasphèmes que tu prononces, car je vois que tu es sérieux dans ce que tu dis. N'as-tu pas honte de vouloir interpréter l'Écriture sainte autrement que les saints-pères et toute l'Église l'interprète? Est-ce à toi ou à l'Église que Jésus-Christ a promis de donner son Saint-Esprit jusqu'à la fin des siècles? Est-ce à toi de gouverner l'Église et à l'Église de t'obéir? N'est-ce pas plutôt à toi d'obéir et à l'Église de commander? Mon pauvre Shiniki, s'il n'y a pas bientôt en toi un changement complet, ainsi que ceux dont tu te prétends l'organe, je crains sérieusement pour votre avenir. Vous montrez un esprit d'incrédulité et de révolte qui m'épouvante. Au lieu de vous soumettre à ce que votre supérieur vous dit, lorsqu'il ne vous répète que ce que tous les saints-pères, les théologiens et l'Église tout entière ont enseigné pendant tous les siècles, vous n'écoutez que votre faible et orgueilleuse raison. Semblable à Lucifer, qui crut pouvoir résister à Dieu dans le ciel, vous cherchez à lui résister sur la terre. Encore une fois, je tremble pour votre avenir. Mais je n'ai qu'un mot à vous dire, et je vous laisse à vos propres réflexions. Si vous acceptez les enseignements de l'Église, et si vous êtes décidé à lui obéir comme des enfants soumis, cette Église sainte, qui est l'épouse de Jésus-Christ, deviendra votre épouse. Elle vous prendra dans ses bras, elle vous pressera sur son cœur, elle vous élèvera à la sublime dignité de prêtre du Nouveau Testament. Elle vous donnera sur la terre un honneur supérieur à celui des rois et des empereurs. En la servant avec fidélité, vous êtes assuré de recevoir la plus glorieuse couronne au ciel, après avoir été sur la terre, l'objet du respect et des hommages du peuple chrétien. Mais si vous rejetez les doctrines de l'Église pour suivre les fausses lumières de votre raison orgueilleuse dans l'interprétation des Écritures, vous devenez des hérétiques, des apostats, des protestants. Vous vous déshonorez sur la terre pendant cette courte vie et vous vous perdez pour l'éternité. Notre supérieur, après ces foudroyantes paroles, nous laissa. Mais à peine était-il sorti que plusieurs des ecclésiastiques se mirent à rire aux éclats. Deux d'entre eux, dégoûtés de la faiblesse des raisons apportées à l'appui du célibat, quittèrent le séminaire peu de semaines après et rentrèrent dans les rangs de la vie laïque. Pour moi, je restais interdit, comme si un coup de foudre m'avait frappé. Je pleurais amèrement d'avoir si publiquement blessé mon supérieur, mon ami et mon bienfaiteur tout à la fois. Mais je n'étais pas moins affligé et profondément humilié d'avoir osé opposer ma faible raison à celle du pape et de l'Église. Je n'avais d'abord pu combattre que les idées de mon supérieur, et comme il m'était permis de le croire faillible, il me semblait que je pouvais légitimement opposer ma faible raison à la sienne. Mais je m'étais aperçu trop tard que ce n'étaient pas ses opinions, mais les doctrines de l'Église qu'il avait développées. C'était donc réellement contre ma grande et infaillible Église que j'avais lutté, ou plutôt dans ma pensée, c'était contre Dieu même que j'avais eu l'audace de raisonner, puisque mon Église n'était que la voie infaillible de Dieu. Après une nuit d'angoisse, ma première action fut d'aller me jeter aux pieds de mon confesseur, pour le conjurer de me pardonner le crime que je croyais avoir commis. Je reçus une sévère réprimande qui l'adoucit pourtant à la fin quand il vit ma sincère douleur par les paroles les plus paternelles. Si j'avais écouté la voix de mon intelligence et de ma conscience, j'aurais assurément quitté le séminaire à cette époque. Mais j'étais sincèrement catholique romain. Il me fallait donc de nouveau livrer un combat à mort à mon intelligence et à ma conscience. Il m'avait pourtant bien semblé les avoir déjà complètement immolés et tués plusieurs fois, mais elle revenait chaque fois à la vie avec une ténacité qui m'épouvantait. Après une lutte terrible, j'espérais de nouveau les avoir terrassés pour toujours. Il se fit bientôt en moi un profond silence. C'était le silence de la mort. Mon confesseur m'assura que c'était la paix de Dieu, et je le crus. Je me décidai donc à n'avoir plus d'autres volontés, d'autres désirs, d'autres projets que ceux que mes supérieurs voudraient me suggérer. Bien persuadé que je ne serais pas responsable devant Dieu de mes erreurs tant que je serais parfaitement docile à la voix du pape me parlant par ses supérieurs. Qu'avais-je en effet à craindre en immolant entièrement ma raison et ma conscience au pied des autels de mon Église pour ne plus suivre qu'elle? J'étais faillible, elle était infaillible. J'étais faible, elle avait la force de Dieu. J'étais petit comme un atome, elle couvrait le monde de sa gloire. J'étais ignorant, elle avait toutes les lumières du Saint-Esprit. Je me décidai donc à ne plus penser que ses pensées, à ne plus vouloir que sa volonté, à ne plus vivre que pour elle et par elle. Et ce fut avec ces sentiments de profond respect et de sincère dévouement à mon Église que je résolus de me consacrer entièrement à mon service et que je fis le vœu du célibat le 18 mai 1832 en recevant l'ordre du sous-diaconat.